Tu as parlé d'or. C'est vrai que on peut se poser la question de savoir en quoi c'est un modèle, hein. Moi, je crois que tu y as répondu, enfin, en tout cas, de mon point de vue, mais je laisserai la parole à tous ceux qui veulent poser des questions. De mon point de vue, lorsqu'on assiste au débat sur la laïcité en France, je parlais avec Frédéric en aparté juste avant que la réunion commence, de la séance hier à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Hier était examinée en séance à l'Assemblée la proposition sénatoriale sur une modification de l'article 1er de la Constitution, s'agissant du principe de laïcité, pour y inscrire la définition que le Conseil constitutionnel, enfin une partie de la définition en fait, que le Conseil constitutionnel avait retenue de la laïcité dans une vieille décision de 2004. Et le débat était d'excellente qualité, de très haut niveau. Je vous invite à vous y reporter, à part quelques interventions, et notamment l'une tout à fait hallucinante du président du groupe La France Insoumise, peu importe, mais qui m'a vraiment surpris avec cette ancienne classique selon laquelle le principe de laïcité serait l'ennemi des religions et ça m'a surpris venant de lui, et en particulier l'ennemi d'une religion, l'islam. Bon, pendant de longues minutes au perchoir à l'Assemblée, c'est vrai que ça surprend toujours un peu. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur ce débat. En tout cas, dans ce que tu viens de dire, Frédéric, ce qu'on voit assez bien, c'est que derrière cette diversité, ce caractère un peu foisonnant, parfois archaïque, de la déclinaison du principe de laïcité dans les Outre-mer, il y a quand même un enseignement fondamental, c'est que malgré la puissance du principe d'indivisibilité, même si on s'inscrit, comme tu le fais, dans une conception universaliste, eh bien, ça n'interdit pas le pluralisme. Et on peut avoir, comme à Mayotte, par exemple, dans la République française, une collectivité à majorité musulmane, sans que, où la population est majoritairement musulmane, sans que cela pose davantage de difficultés. Ce qui montre bien, effectivement, que le principe de laïcité n'est pas l'ennemi de la religion. Au contraire, comme tu l'as dit, fondamentalement, c'est un principe protecteur de la liberté de conscience. Bon, je m'avance pas plus, j'aurai beaucoup de questions, mais ce que je vous propose, enclenchons un débat peut-être à partir de ce qui a été dit et
Alors, nous avons plusieurs spécialistes de la question qui assistent à cette réunion Zoom, donc je vous invite à ou à le faire traditionnellement en prenant la parole et on vous entendra, ou à lever la petite main telle que Zoom permet comme fonction. Donc, je ne sais pas, je
Oui,
vois
parce
qu'il y a
que.
eu plusieurs réactions au propos de Frédéric Potier. Régis, tout à fait, oui, je vous ai vu opiner du chef plus d'une fois.
Non, je reviens sur la décision du Conseil constitutionnel sur la Guyane, qui reprend en fait celle sur l'Alsace-Lorraine. Oui.
Régis, sans te présenter, mais rappelle que peut-être que tu as été chef du service juridique du Conseil constitutionnel, etc.
Oui,
Juste
c'est ça.
pour
En fait,
que. Voilà.
j'ai passé à peu près 10 ans de ma vie en Nouvelle-Calédonie, en deux étapes, et 10 ans au Conseil constitutionnel. Voilà, c'est ça. Sinon, je suis magistrat administratif, conseiller d'État, enfin honoraire maintenant depuis.
Et le papa de Pauline Fraisse,
Et le papa de
pour le.
Pauline Fraisse aussi, pour ceux qui connaissent l'arrêt de la Cour de cassation. Voilà.
Voilà, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai un
Oui,
peu
cette
intéressé aux
décision
questions.
donc sur la Guyane qui reprend celle de l'Alsace-Lorraine, en fait, elle est antérieure à 2010. L'idée est antérieure à 2010. Pourquoi? Parce que la QPC n'aurait jamais été, n'aurait, la révision constitutionnelle sur la QPC n'aurait jamais abouti si les élus d'Alsace-Lorraine n'avaient pas eu une sorte de promesse que la QPC ne remettrait pas en cause le régime concordataire de l'Alsace et de la Lorraine. Voilà. À savoir, cette QPC, enfin, la réforme a été validée avec une seule voix hein, à l'époque, et la QPC n'existerait pas aujourd'hui, il faut le savoir dans l'histoire un petit peu de la construction de la jurisprudence. Donc cette idée-là, elle est antérieure à la QPC. Elle a été reprise après. Voilà. Alors pour la Guyane, d'ailleurs, enfin, il y a peut-être quelqu'un de la Guyane, mais j'ai rencontré il y a quelque temps l'évêque de Guyane et qui m'a dit que ce principe de rémunération par la collectivité de la Guyane allait prendre fin. Alors, je ne sais pas à quelle date, mais je crois qu'il y a une fin qui est prévue. Voilà. Donc, c'est vrai que ça ne poserait pas de problème d'appliquer la loi 1905 à la Guyane. Ça poserait beaucoup plus de problèmes à Wallis et Futuna, puisque là, le référendum à l'époque de 61, enfin 60-61, à Wallis et Futuna, sur l'autre côté de la balance, il y avait le respect des coutumes, le respect de la religion, etc. On retrouve d'ailleurs dans la loi de 61, dans l'article 3 de la loi de 61. Quoi. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Quoi.
Merci pour ces éclairages.
Merci, Régis.
Que la réforme de la QPC est tenue à un cheveu à la promesse faite aux élus alsaciens mosellans que leur régime ne serait pas remis en cause, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout en tête.
Ça tient à pas grand-chose. C'est certain.
Mais du coup, là, Régis, tu excites vraiment ma curiosité. Est-ce que c'est une promesse verbale ou est-ce qu'elle a été formalisée d'une quelconque façon?
Non, je ne peux pas en dire plus.
D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu une réponse du gouvernement à un moment au Sénat ou à l'Assemblée ou pendant le Congrès. Je veux dire, il n'y a pas eu... Voilà, en tout cas, non, de ce que je comprends.
Non, moi j'avais travaillé sur le sujet. Après, mon travail, je ne sais pas ce qu'il avait advenu par la suite. Voilà, c'est tout.
D'accord.
J'avais fait une note blanche sur le sujet. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça s'est devenu.
Bonjour Olivier.
D'autres réactions, d'autres interventions, aussi bien à l'oral que dans la partie chat aussi de ce Zoom?
Olivier, tu veux intervenir?
Juste un mot d'abord pour vous saluer. Saluer Frédéric, Ferdinand. Sur la Guyane, moi, j'ai toujours été frappé par le fait que la main tremblait beaucoup plus pour modifier des vieux textes, l'ordonnance de Charles X, qu'aujourd'hui, quand on voit le rythme de modification des textes et la frénésie de modification, on peut être surpris que ces vieux textes suscitent autant d'inquiétudes. Enfin, pour l'avoir vécu d'un petit peu plus loin, je pense effectivement que le système a vécu en Guyane. Il y avait des considérations politiques qui font que le sujet est monté un peu en crise, mais fondamentalement, chacun sait. Alors je n'ai pas l'info sur la fin programmée de ce système, mais en tout cas, chacun avait bien conscience que cette vieille ordonnance de Charles X a vécu.
Oui, bonjour à tous.
Isabelle.
Oui, si je peux intervenir sur le même sujet, en fait. Alors, peut-être un élément d'abord qui pourrait paraître anecdotique, mais nous, régulièrement, dans les médias, eh bien, nous avons des reportages de Télé-Guyane sur le refus très médiatisé du président de la collectivité territoriale de rémunérer, ou en tout cas sa menace et ses menaces de ne plus prendre en charge la rémunération des ministres du culte. Et régulièrement, donc, ces sujets-là font partie du JT, en fait, des différents journaux télévisés de l'Outre-mer, en tout cas en ce qui nous concerne, Martinique, Guyane, Guadeloupe.
La question s'était posée au moment aussi de la revendication d'un imam d'être rémunéré par la collectivité de Guyane. Ce que je ne m'explique pas, c'est le point selon lequel il serait acté qu'il sera mis fin à cette rémunération par la collectivité territoriale de Guyane. Mais qui prendra le relais à ce moment-là?
Ben, l'Église, hein. Je pense que, en fait, du côté de l'Église catholique, il y a une question tactique et une question stratégique. Je pense que le côté tactique, c'est, vu le montant, je pense qu'il n'y a pas de difficulté énorme à ce que, de son propre chef, l'Église catholique renonce à cette rémunération et la prenne directement à sa charge, puisque c'est moins d'1 million d'euros. Et par contre, la question stratégique, et c'est là où je pense qu'il y a une analyse qui a été très fine, le fait de faire abroger l'ordonnance de Charles X, évidemment, ça donne l'idée de vouloir abroger le concordat tout entier. Et là, les conséquences financières sont tout autres. Donc, alors moi, j'ai plus les souvenirs là très précis en tête, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça, un deal qui aurait consisté à prévoir une prise en charge et comme une forme d'abandon de créance, quoi, pour justement maintenir le régime concordataire en Alsace-Moselle, qui est vraiment le truc stratégique là pour le coup. Je pense pour la conférence des évêques de France.
D'accord. Oui, pour la Guyane, ça ne me pose pas trop de problèmes, parce que des membres du clergé soient rémunérés par l'État, on a ça dans les aumôneries, dans les hôpitaux, dans les prisons, etc. Ce qui me pose plus de problèmes, c'est les décrets Mandel, quand même, parce que les décrets Mandel soumettent à autorisation du représentant de l'État la création d'une religion, quoi. Et ça pose problème. Alors en Nouvelle-Calédonie, j'avais eu un dossier sur le sujet. Alors c'était plutôt des agents immobiliers qui étaient venus, je crois, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, qui avaient créé une. Enfin, ils étaient trois pour. Mais ils faisaient plutôt du commerce immobilier qu'autre chose, quoi. Et le haut-commissaire avait refusé l'autorisation, donc, de constater l'existence de cette religion en Nouvelle-Calédonie. Il y avait un recours devant le tribunal administratif et finalement on avait estimé qu'il devait y avoir, en compte tenu de la rédaction du texte, un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, quoi. Parce qu'il y avait sauf recours au ministre des colonies, je ne sais plus, enfin il y a ce texte-là, quoi. Et on estimait quand même qu'il valait mieux que ce soit une autorité centrale qui prennent la décision plutôt qu'une autorité locale qui peut recevoir des pressions des autres religions, quoi. Voilà. Et finalement, ça n'a pas débouché, il n'y a pas eu de recours par la suite et ça s'est arrêté là, quoi. Et c'est vrai que ça pose quand même problème que pour une liberté de cette nature-là, il y ait une autorisation administrative. Qui est une déclaration, pourquoi pas, je veux dire, ça peut se faire, hein, comme une association, quoi. Mais qui est une autorisation, pour moi, ça me paraît contraire à la Constitution aujourd'hui.
Ah, c'est sûr. Gilles, dont je vois les lèvres remuer.
Oui, exactement. Merci, Ferdinand. Bonjour à tous. Oui, juste une petite observation dans le prolongement de ce que vous disiez, Monsieur le Président. J'ai failli plaider devant vous, mais j'ai quitté la Calédonie, je crois, un peu avant que vous n'y reveniez pour présider le tribunal. Je suis allé voir un peu sur le journal officiel de la Nouvelle-Calédonie les décisions qui étaient rendues justement au visa des décrets Mandel. Et on ne voit pas grand-chose dans l'actualité. En 2020, par exemple, on voit effectivement un arrêté du haut-commissaire relatif au conseil d'administration de la mission religieuse des témoins de Jéhovah. Un deuxième arrêté, toujours du 14 février, alors c'est vrai que c'est la Saint-Valentin, relatif au conseil d'administration de la mission religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Et après, il faut quand même remonter assez loin dans le temps pour voir véritablement d'autres décisions, d'autres autorisations, et qui concernaient essentiellement des autorisations pour recevoir des legs. Donc, on voit que j'ai l'impression que cette tutelle de l'État s'exerce, elle existe, mais elle ne se traduit pas par quand même beaucoup de décisions, alors que pourtant j'imagine qu'il y a un certain nombre d'opérations soumises à ces décrets qui interviennent tous les ans, en tout cas régulièrement. Deuxième chose, j'ai relevé une délibération de l'Assemblée de la province sud de 1991, même deux délibérations, qui modifient en fait le décret Mandel pour la province sud, en tout cas, hein. Vraiment l'article 2, c'est que L'article 1er du décret Mandel est modifié comme suit. Et le président de l'Assemblée, le président de la province Sud, était donc devenu l'autorité compétente pour autoriser l'acceptation de dons en espèces ou des feux immobiliers dont la valeur excède 2 millions de francs pacifiques. Donc, c'est vrai que je voulais un peu voir quelle était en fait concrètement actuellement la traduction effective de ce décret. Et je suis un peu surpris de voir qu'il n'est quand même question essentiellement d'argent, que ce soit des questions fiscales notamment ou l'acceptation de dons. Et pour revenir sur le pluralisme dont tu parlais, Ferdinand, je suis resté un peu sur ma faim. Enfin, voilà, je n'ai pas constaté beaucoup d'interventions dans un champ vraiment très pluraliste.
Je pense que la compétence de la province en 91, parce que en 1980, enfin après 88, la province est accaparée d'un certain nombre de compétences, notamment sur les associations. Ça a été censuré par le Conseil d'État. Sur les jeux de hasard également, ça a été censuré par le Conseil d'État à l'époque. Et là, je pense que ça aurait été aussi censuré parce que le Conseil constitutionnel l'a redit dans une décision d'ailleurs de ce matin. L'État reste compétent pour les garanties des libertés publiques. À mon avis, le Conseil constitutionnel est allé un peu trop loin, mais enfin bon, en tout cas, c'est ce qu'il a jugé ce matin à propos des compétences en matière de Covid, en disant que finalement, l'État pouvait intervenir en Nouvelle-Calédonie, quitte même à toucher à compétences de la santé, parce que ça touchait aux garanties des libertés publiques. Bon, ce n'est pas le sujet, mais je n'ai pas tout à fait la même appréciation de cette compétence.
C'est une interprétation un peu large.
Oui. Sinon, on va très loin. C'est-à-dire tout le code du travail, dès l'instant qu'on touche aux libertés publiques, ça serait l'État. Enfin, à mon avis, il faut regarder d'abord la compétence. Et, enfin, bon, c'est... En tout cas, la religion, pour moi, ça reste dans les garanties des libertés publiques.
D'autres réactions, questions ? Olivier, est-ce que la très grande diversité décrite par Frédéric t'a donné envie de faire un deuxième code ? Parce qu'avec Olivier Magnaval, nous avons fait un code des entreprises en Outre-mer et cette fois-ci un code de la laïcité en Outre-mer. Alors, il faudrait déjà qu'il y ait un code de la laïcité en France, ce qui est un autre et beau sujet.
Non,
tu ne veux plus faire de code ?
Non. Je trouvais que autant les dispositions d'adaptation permettent ce travail de codification, autant l'extension de notre deuxième édition, Ferdinand, aux collectivités de l'article 74 et à la Nouvelle-Calédonie, vraiment, j'ai trouvé l'exercice très difficile, très difficile, hein, dans la codification, puisque évidemment, ça n'aurait de sens qu'avec... en étant capable également d'y adjoindre les dispositions votées par les collectivités elles-mêmes pour avoir une vision assez exhaustive du droit applicable. Et là, c'était, dans un seul ouvrage, c'était mission impossible. Voilà, donc je trouve que l'exercice était très intéressant et je pense utile sur les dispositions d'adaptation des collectivités de l'article 73.
Est-ce que sur la réunion, quelqu'un voudrait... intervenir, Jean-Baptiste ou Sonia Chankun, dont je vois qu'elle nous a rejoint, ou quelqu'un d'autre, notamment sur ce qu'a évoqué Frédéric, à savoir Monseigneur Aubry, hein, Monseigneur, comme on dit à La Réunion, voilà, qui cornaque ça depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'il y a un groupe de dialogue interreligieux qui fonctionne très bien. Est-ce que quelqu'un voudrait en dire un petit mot ?
Oui, j'en dis un mot, mais avec beaucoup de réserve, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Et par ailleurs, je ne suis pas dupe non plus, parce que j'ai bien le sentiment que le mot même de laïcité est multiforme, et chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Donc, n'étant pas spécialiste de toutes ces questions-là, je me garderai bien de quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, comme tu l'as dit, le dialogue interreligieux n'est vraiment pas un vain mot, parce qu'effectivement, les représentants des différentes religions font de très nombreuses manifestations de concerts. Et au-delà de ça, dans la population, de très nombreuses personnes sont en même temps catholiques, en même temps tamoules, en même temps donc pratiquent plusieurs cultes sans que ça ne pose la moindre difficulté. Et donc, on a le sentiment depuis la Réunion très souvent que les débats sur la laïcité en France métropolitaine sont dans une autre dimension, parce que je n'ai pas du tout le sentiment que ce soit le même vécu dans la population locale. Mais encore une fois, c'est un propos de néophyte et absolument pas de spécialiste en la matière.
Ton perroquet est d'accord avec toi.
Il acquiesce, en effet.
Sonia, est-ce que tu voudrais intervenir sur le sujet, donner ton point de vue ?
Peut-être Ferdinand.
Oui, pardon Frédéric.
Non, cette question de la Réunion et des jours fériés que j'avais évoqués tout à l'heure avec Éric Cabaret. C'est vrai que son amendement, c'était l'amendement à la loi travail qui à l'époque était porté par Emmanuel Macron, visait à permettre aux préfets de déroger au calendrier national d'un ou deux jours pour mieux coller aux pratiques religieuses locales. Et je me souviens qu'on avait eu un débat avec Eric, parce que moi je lui disais que sur le principe j'étais évidemment pour, mais je lui disais est-ce que tu es sûr d'avoir l'accord quand même de justement Monseigneur Aubry et du groupe de dialogue interreligieux, enfin je sais pas quel est son intitulé exact. Et au départ elle m'avait dit oui j'ai leur accord, et puis en fait à mesure qu'on a investigué la chose, certaines personnes qui avaient donné leur accord se sont un peu retirées de cet accord, on va dire. Et donc du coup on a eu droit à une polémique en règle avec Le Parisien qui disait en une ils veulent changer les jours fériés quoi, à partir d'un truc qui était très très ciblé sur chaque préfet de département d'outre-mer, et donc ça avait tué l'initiative. À partir du moment où on avait une polémique dans Le Parisien, président de la République et premier ministre ont dit non mais le texte sur la loi travail est déjà tellement compliqué à faire passer qu'on va pas en plus se rajouter un sujet culte d'outre-mer. Et donc du coup on avait battu retraite, mais du coup, voilà, c'était pour relativiser effectivement ce que disait l'intervenant précédent sur le côté il dialogue, mais bon, voilà, ce dialogue, il a la grande vertu d'exister. Il n'aboutit pas toujours à des décisions concrètes et consensuelles.
Ah, mais je suis bien d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on dialogue qu'on est nécessairement d'accord. Sinon.
Non, tout à fait, non, je disais simplement cela parce que. On avait pu croire que ce dialogue aurait pu permettre justement de faire bouger cette question, cette pratique, ce qui n'a pas été le cas, je pense notamment parce que je pense qu'il y a des pressions qui se sont exercées aussi depuis Paris, hein, enfin, et depuis Rome probablement. Je pense que certains y ont vu des dangers pour d'autres territoires que la Réunion.
Oui, sans doute, mais c'est vrai que sur cette question, il y a certains jours fériés qui sont traditionnellement présentés comme étant des jours catholiques. Je songe au lundi de Pâques ou au lundi de Pentecôte, et il n'y a aucune célébration catholique ces jours-ci. C'est juste un jour qui se raccroche à un week-end où le dimanche pascal est évidemment très important pour les catholiques, le dimanche de Pentecôte aussi, mais le lundi en lui-même n'a aucun rattachement au culte catholique, me semble-t-il. Donc c'est vrai que ce sont des journées qui pourraient facilement servir d'un échange, mais après à la Réunion, il y aurait nécessairement une difficulté de partage entre quelles religions. J'imagine que derrière la simplicité de l'idée, il y a des difficultés de mise en œuvre qui sont bien réelles. Oui.
Merci. Malheureusement, Sonia Chancun ne peut pas nous parler parce qu'elle a un problème de micro. Et donc, elle nous écrit, je ne sais pas si vous lisez ce qu'elle écrit, et notamment son dernier message qui est très intéressant, qui est de dire finalement cet islam de France que l'on cherche tant, il existe déjà, il est à La Réunion. Et c'est vrai que pour ceux qui... Tout à l'heure, je faisais une petite vérification sur la plus vieille mosquée de France. Alors, il y a débat entre Mayotte et La Réunion, mais la mosquée de Saint-Denis, a été inaugurée le 28 novembre 1905, quelques jours seulement avant l'adoption de la loi du 9 novembre. Donc elle serait la plus ancienne. Mayotte revendique que la mosquée de Tsingoni aurait des parties de cette mosquée qui daterait, elle, du XVIe siècle, début du XVIe siècle, mais bon, il y a discussion. Enfin, bon, en tout cas, cette appréciation de Sonia Chankun, je crois qu'elle correspond à une forme de réalité à La Réunion qui est tout à fait particulière et intéressante, où il y a une réelle structuration du culte musulman. C'est une autre facette de ton propos, Frédéric, sur l'idée de est-ce que les Outre-mer ou certains d'entre eux pourraient servir de modèle. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser.
J'ajoute juste sur l'Outre-mer en disant que la religion est quand même quelque chose de très important. Quand on voit ce qui s'est passé à Marais, je ne sais pas si vous avez entendu parler du drame de Marais, où des habitants de Marais ont été expulsés de Marais pour une histoire donc intra-religieuse, quoi. C'est pas inter-religieuse, suite à la nomination d'un pasteur, quoi, hein, tout simplement. Quoi, hein. Donc ils ont dû quitter l'île de Marais pour se retrouver dans la banlieue de Nouméa. Quoi, hein, voilà. Donc c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, en tout cas pour les pouvoirs publics aujourd'hui et pour légiférer en la matière. Quoi.
Bien, pas d'autres remarques, Frédéric, un mot, ou Olivier.
Non, pardon.
Frédéric, un petit mot de la fin sur cette première séquence conférence-débat.
Non, c'était un plaisir de vous revoir à distance, voilà.
Bon. Merci beaucoup d'avoir donné du corps et avoir fait souffler un esprit sur cette première partie de la réunion.